Au 22h à Niamey, bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus, l'épidémie d'Ebola se propage plus vite que prévu en Afrique de l'Ouest, selon Médecins Sans Frontières. Reportage aujourd'hui en Guinée, où certains habitants de Conakry ne croient toujours pas à l'existence du virus.
J'avoue, jusqu'ici, il y a certains qui n'y croient pas. Donc on a besoin d'une telle enquête pour voir exactement quel type de message il leur faut pour qu'ils puissent vraiment accepter de se faire prendre en charge.
Démographie africaine, le Nigeria a la plus forte natalité du continent et sans surprise, le Niger et le Mali ont les taux de fécondité les plus élevés du monde. Enfin, nous resterons au Mali pour terminer l'émission avec les inquiétudes de la filière agricole par manque de pluie. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, à ce micro, Jean-Roger Billon.
Sarah Diaby, le virus de l'Ebola continue de faire de nouvelles victimes chaque jour. 84 autres sont mortes de la fièvre hémorragique en Afrique de l'Ouest, portant le nombre de morts causées par l'épidémie dans la région à 1229. Par ailleurs, la Banque africaine de développement a accordé une aide de 60 millions de dollars aux pays touchés par l'épidémie du virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest.
Annonce faite aujourd'hui à Abidjan par le président de l'institution financière Donald Kaberuka. Il en a profité pour annoncer le retour définitif du siège de la BAD dans la capitale économique ivoirienne après 11 ans d'absence en raison de l'instabilité politique.
Bientôt, le procès de l'affaire dite des bérets rouges au Mali. Le juge en charge de l'affaire vient de boucler la première phase de l'instruction. Déjà, les résultats des tests ADN confirment que 21 corps des militaires retrouvés dans le charnier de Diago sont des corps de béret rouge proche de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré, Kassim Traoré.
Cela fait quelques jours que le juge d'instruction Yaya Karambé a communiqué les dossiers de fin d'instruction de l'affaire dite des bérets rouges au procureur de la commune 3. Il revient au procureur de la commune 3 de faire son réquisitoire définitif avant l'ordonnance de clôture du juge d'instruction Yaya Karambé. C'est après que le parquet va fixer la date du procès du général Amadou Aya Sanogo et compagnon. Déjà dans les dossiers transmis au procureur de la commune 3, les tests ADN des corps retrouvés dans les charniers de Diago ont été confirmés par le laboratoire d'analyse américain. C'est mardi 19 août 2014, le juge d'instruction Yaya Karambé quitte Bamako pour un voyage de 3 semaines aux États-Unis sur invitation du gouvernement américain. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Un pavé dans la mare en République centrafricaine. Alors que le pays attend toujours la formation d'un nouveau gouvernement, le président du Conseil national de transition, Alexandre Ferdinand Guédé, a demandé depuis Brazzaville de sursoir à la mise en place d'un nouveau gouvernement dans son pays, estimant que le premier ministre désigné récemment ne fait pas l'unanimité.
Pour rappel, M. Mahamat Kamoun a été nommé Premier ministre le 10 août en remplacement d'Andraye Inzapayeke pour former un gouvernement élargi sur place à Bangui. Plusieurs dizaines de jeunes ont manifesté cet après-midi devant le siège du Parlement provisoire. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de tentative de déstabilisation de la transition depuis Brazzaville.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
À Gaza, les combats menacent de reprendre entre Israël et le Hamas, une situation qui survient au moment même où les représentants des deux camps négociaient la prolongation d'un cessez-le-feu. Le point avec Lola Akomakri.
L'armée israélienne a procédé aujourd'hui à des frappes aériennes dans la bande de Gaza en représailles à 3 roquettes tirées depuis l'enclave palestinienne en direction de la ville israélienne de Beersheba. Aucune victime n'a été rapportée de part et d'autre. Les négociations sur les conditions d'une trêve durable avaient repris ce mardi en Égypte avant de voler en éclats. Le Hamas, qui a violé en premier le cessez-le-feu temporaire conclu au Caire, accuse Israël de traîner les pas. Suite aux derniers incidents, les négociateurs israéliens se sont retirés de la table de discussion alors que la veille au soir, ils s'étaient accordés in extremis avec leur homologue du Hamas sur une prolongation de la trêve instaurée depuis le 11 août. Ce cessez-le-feu est censé expirer ce mardi à minuit.
Il n'y a pas de fracture raciale dans la ville de Ferguson, affirme James Knowles, le maire de Ferguson dans l'État américain du Missouri. Une déclaration qui survient après 10 jours de meute suite à la mort le 9 août de Michael Brown, un jeune noir abattu par un policier blanc. La mort de Brown a suscité des allégations de discrimination systématique à l'égard des minorités et un débat national sur la race aux États-Unis.
Vous écoutez la voix de l'Amérique, Jean-Roger Bion à ce micro.
Sarah Diaby, la suite de cette plus.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission avec l'épidémie du virus Ebola qui se propage plus vite que prévu en Afrique de l'Ouest, selon les estimations de l'ONG Médecins Sans Frontières, MSF. À la suite d'une récente tournée dans la zone, l'ONG déplore l'hésitation des populations à se rendre dans les centres de santé et l'absence d'infrastructures adéquates pour faire face à la maladie. Lola Akomachri a joint par téléphone Julie Damon, la chargée de communication de MSF pour l'Afrique de l'Ouest.
Ce qu'on remarque aujourd'hui sur le terrain, c'est une situation inquiétante parce que on a cette multiplication de petits foyers, ce qui est complètement nouveau en termes d'épidémie d'Ebola. MSF, ça fait quand même 20 ans qu'on intervient sur des épidémies d'Ebola. On avait un peu développé un savoir-faire, mais là, ce qu'on voit, c'est complètement différent de ce qu'on sait faire jusqu'à présent. On est dans des contextes urbains. Il y a plus de contacts entre les gens, il y a plus de mouvements. C'est des populations très mobiles dans ces zones, que ce soit au sud-est Niger et ce triangle qui fait les frontières entre Liberia et Sierra Leone. On a atteint une certaine limite dans ce qu'on peut mobiliser et aujourd'hui, ça fait quand même 3, 4, 5 semaines qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a une épidémie exceptionnelle qui requiert des moyens exceptionnels. On n'a pas réellement de traitement à notre disposition. Aujourd'hui, quand on a un cas d'Ebola, il faut tracer ses contacts et il faut suivre médicalement ces gens-là et les isoler le plus vite possible pour qu'il n'y ait pas d'autres contaminations à d'autres gens. Il faut bien comprendre qu'on est dans des pays dont les systèmes de soins sont très défaillants et les gens ont une extrême appréhension à se rendre dans les systèmes de soins. Donc aujourd'hui, on est un peu face aussi à ce dilemme d'essayer de rassurer les gens et de leur redire qu'on ne vient pas mourir uniquement dans les centres de traitement. Il y a un tiers des gens qui sont admis, qui arrivent à en réchapper. Et plus on vient tôt au centre de traitement, plus on a de chances d'en sortir puisqu'on aura pris la maladie le plus tôt possible.
Et dites-nous, comment se passe la collaboration entre MSF et les gouvernements en termes de riposte à l'épidémie ?
On travaille très très bien avec les 4 ministères présents dans la région. Je pense que tout le monde a pris conscience du sérieux de l'épidémie et je pense qu'on essaye de faire face avec eux en les aidant du mieux qu'on peut. Eux, ils sont tout à fait réceptifs en tout cas au fait que Médecins Sans Frontières déploie des activités dans leurs pays respectifs. Par contre, voilà, on est dans des endroits où de toute façon, comme en Sierra Leone et au Liberia, on a 0,1 et 0,2 médecins par 10 000 habitants. On travaille avec les autorités du mieux qu'on peut, tout en sachant que les moyens ne sont pas complètement là.
Julie Damon, chargée de communication pour l'ONG Médecins Sans Frontières en Afrique de l'Ouest. MSF est présente en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les 3 pays les plus affectés par l'épidémie. Et en Guinée, justement, malgré la propagation rapide d'Ebola, il y a encore beaucoup de sceptiques. Selon une enquête réalisée par une ONG locale, les habitants de Conakry sont encore nombreux à ne pas croire à l'existence du virus. Les autorités sanitaires guinéennes ont donc décidé de renforcer la sensibilisation, comme nous l'explique notre correspondant Zakaria Camara.
Une enquête réalisée par le Centre communautaire pour le développement de l'éducation, CECOD, révèle qu'il y a encore des résistances à la lutte contre Ebola. Selon les enquêteurs, 24% des personnes interrogées ne croient pas qu'Ebola existe en Guinée et 4% restent dubitatifs. Malik Ba, président du CECOD.
Les résultats du sondage ont montré que, avec tout ce qui est fait en matière de sensibilisation, il y a encore des résistances. Il y a encore des obstacles pour une meilleure communication. Pour qu'une communication soit efficace, il faut que les a priori, les préjugés des citoyens soient pris en compte.
Le sondage a été réalisé à Conakry. Le ministre guinéen de la Santé salue l'initiative et souhaite que les enquêteurs aillent dans les autres localités du pays. Dr Rémi Lama compte sur le CECOD pour enrichir la communication vers les populations.
J'avoue jusqu'ici, il y a certains qui n'y croient pas. Donc on a besoin d'une telle enquête pour voir exactement quel type de message il leur faut pour qu'ils puissent vraiment accepter, collaborer avec avec les services de santé, accepter de se faire prendre en charge, car aujourd'hui, comme nous l'avons toujours dit, le premier remède, c'est la prévention. Le premier remède, c'est la détection précoce des cas afin d'une prise en charge efficace. Comme nous l'avons toujours dit, plus tôt on est reçu dans les salles de traitement, mieux ça vaut.
Le président Alpha Condé a déclaré il y a quelques jours l'état d'urgence sanitaire national pour lutter efficacement contre Ebola. Maintenant, l'heure est à la participation de tous, a souligné Dr Sakoba Keïta, chef de la division prévention et lutte contre la maladie.
Tout le monde doit agir pour qu'on puisse mieux contrôler cette maladie dans notre pays. Donc en dehors de ça, il y a des mesures contraignantes qui sont contenues dans l'urgence sanitaire que vous devez nous aider afin que la population les accepte. Cette première grande mesure, c'est l'empêchement des contacts de se déplacer hors de leur localité pour ne pas exporter la maladie. Une deuxième composante, c'est que vous devez nous aider pour que toute personne venant du Libéria ou de la Sierra Leone soit notifiée au service de santé.
Depuis janvier, la Guinée a enregistré 523 cas, dont 380 décès et 18, c'est le nombre de personnes malades dans les centres de traitement. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Et vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la VOA et sur le 99.4 FM à Mamou, en Guinée, sur la radio Bolivar. Continuons sur notre plongée dans la démographie africaine et ses implications à travers le rapport Génération 2030 publié par l'UNICEF. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les cas du Nigeria, du Mali et du Niger. Le Nigeria a le plus fort taux de natalité du continent. En 2015, un enfant africain sur cinq naîtra au Nigeria, ce qui représentera 136 millions de naissances entre 2015 et 2030. Ça veut dire que d'ici 2050, le Nigeria représentera 8% des naissances à l'échelle mondiale. Le Niger, lui, continue d'avoir le taux de fécondité le plus élevé du monde, avec 7,5 enfants par femme en moyenne, suivi du Mali avec 6,8 enfants par femme. Des taux qui devraient s'abaisser autour de 4 enfants par femme vers 2050. Tin Mingo est l'une des rédactrices du rapport de l'UNICEF.
On projette en 2015 160 millions d'habitants au Nigeria. C'est l'éléphant du continent. Derrière le Nigeria, il y a la RDC, la République démocratique du Congo, il y a aussi l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, qui sont des pays avec 70-80 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, déjà, le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé sur le continent d'Afrique subsaharienne. Et la population continue à croître très vite au Nigeria, et ce sera un pays qui va atteindre 440 millions d'habitants en 2050. Donc, une population qui se croit 2,5 fois supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est l'éléphant de la région. Avec la croissance démographique que connaît le pays aujourd'hui, sur une base si large de la population, un nombre de femmes en âge de procréer si large, c'est le pays où l'accroissement en nombre absolu de la population va être le plus important. C'est le pays qui va tirer cette croissance démographique pour le continent subsaharien, ça c'est sûr.
Et le Mali et le Niger sont deux pays qui affichent des taux de fécondité toujours extrêmement élevés.
Le Niger aujourd'hui, il y a une population environ de 15 millions d'habitants en 2015, mais où les taux de fécondité sont les plus élevés. On est à 7,6 enfants par femme en moyenne, donc il y a des femmes qui ont jusqu'à 10 enfants, 11 enfants, voire plus. Et notamment en zone rurale, la moyenne est à 8,1 enfants par femme. Et ce sont des pays qui sont plus petits en taille absolue, donc on va dire 15 millions d'habitants pour le Niger, mais qui croissent très très vite. C'est les pays qui ont le taux de croissance démographique les plus rapides, même plus rapide que le Nigeria. Donc au Niger, on est à 3,9% de croissance annuelle démographique, ce qui veut dire un temps de doublement de la population de 20 ans. Donc d'ici 2050, les projections montrent qu'on devrait atteindre 70 millions d'habitants au Niger. Au Mali, on est dans une configuration similaire, même si le taux de fécondité est légèrement plus bas, avec des populations de taille similaire, 12, 13, 15 millions d'habitants. Mais les taux de fécondité aussi sont très élevés, 6 à 7 enfants par femme. Et du coup, on est aussi à des taux de croissance démographique annuelle de 3,5% par an.
Tin Mingo, spécialiste en politique sociale et économique pour l'UNICEF. Nous terminons l'émission au Mali où la pluie se fait attendre cette année, ce qui désespère producteurs et cultivateurs. Toute la filière agricole craint une mauvaise récolte si les pluies continuent à se faire attendre. Le gouvernement malien a déjà démarré une campagne de distribution de céréales pour alléger la période de soudure dans les régions de Ségou, Sikasso, Mopti et Tombouctou. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
La perturbation pluviométrique a joué sur le début de la saison hivernale au Mali. À l'analyse de l'évolution des emblavures, c'est-à-dire la surface cultivée, et la situation phytosanitaire, il n'y a pas de crainte, à condition que la pluie continue avec son rythme actuel. Car la surface cultivée pour toutes les cultures confondues est estimée à plus de 5 500 000 hectares. Mamadou Samake, directeur national de l'agriculture.
Pour comparer le 2013, du point de vue du niveau de l'irrigation, pour 2014, est plus élevé que 2013. Sauf que 2013, l'effet de la pause pluviométrique a été moins fort. La pause pluviométrique a surtout joué sur le maïs hybride. En comparant les deux années, nous dirons que cette année, on a fait plus que l'an passé.
Pour ce qui est des ressources pastorales, l'état des pâturages est jugé satisfaisant avec la régénération des herbacées. L'abreuvement des animaux s'effectue pour le moment sans difficulté majeure. Les troupeaux transhumants font leurs déplacements dans le respect de conventions locales. Le secteur de la pêche n'est pas aussi oublié.
Plus de 100 000 tonnes de poissons par an. 100 000 tonnes, et pour qui c'est la moyenne, le prix moyen du poisson sur le marché aujourd'hui, en faisant une petite comparaison, on peut dire que la pêche a toujours sa place au sein de l'économie malienne.
Le commissariat à la sécurité alimentaire sillonne l'intérieur du pays pour faire face à la période de soudure dans les villages et hameaux. Kone Sitan Kloubadi, chef de la mission de supervision dans la région de Ségou.
Ma satisfaction est totale, surtout par rapport à l'implication de l'administration qui est satisfait par le niveau d'implication des élus qui, à tout, il y a eu des choses qui ont été dites qui n'ont pas été remontées totalement. Il a fallu que la mission arrive pour constater que certains sites sont mis en place et ils avaient besoin d'être accompagnés. Ils n'étaient pas dans le schéma classique. Grâce à notre mission de suivi, aujourd'hui, on les a identifiés et le ministre a décidé de les apporter à manger.
Issa Koulibaly, bénéficiaire de la distribution gratuite des céréales par le commissariat à la sécurité alimentaire dans le cercle de Nyounou.
Je vais avoir reçu 626 tonnes de mille sorgho à l'effet d'être distribué dans les communes du nord du cercle de Nyounou. Alors, vous imaginez aisément que dans les autres communes, il peut y avoir aussi des poches. Nous sommes actuellement à Bourdamé-Ouré, une communauté qui est entrée de la République islamique de Mauritanie sur les camps de réfugiés d'Embera depuis février.
Aujourd'hui, le souhait des paysans et autres producteurs maliens est qu'il ait encore de la pluie en abondance, sans quoi il y aura une prolongation de la période de soudure et ce ne sont pas des distributions de céréales qui pourront résoudre le problème. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation Lionel Gaïma. À la console Sipsisk, au micro Claire Morin-Gibour. Nous nous quittons en musique avec Bassé Koukouyaté et son Bangoubou Blues. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.